jour, Édouard Balladur menacé d'un procès. Le parquet demande le renvoi de l'ancien Premier ministre devant la Cour de justice de la République. Soupçon de financement occulte de la présidentielle 95 sur fond de vente d'armes au Pakistan. Un samedi sous haute sécurité en France, journée du patrimoine perturbée, nous verrons les sites fermés. Gilets jaunes, Black Bloc, manif contre les retraites, les autorités redoutent les débordements et aussi les actes de désobéissance civile annoncés par les marcheurs pour le climat, vous l'entendrez. Quand ruralité et numérique font beau ménage, cela donne un heureux village, reportage. Mondial de rugby au Japon, match au soleil levant, supporters même pas peur, vous l'entendrez.
Et rendez-vous pour le match à 9h15 ce matin. Les invités de la matinale, 7h50, Patricia, vous recevrez...
Le professeur de neurologie Bruno Dubois pour parler de la maladie d'Alzheimer. Il publie un livre sur le sujet.
Et puis à partir de 8h20, l'invité Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, à l'occasion de la rentrée universitaire et aussi à propos de sa participation à la loi bioéthique.
France Inter.
La menace d'un procès se précise donc à l'encontre d'Édouard Balladur.
On l'a appris hier soir, François Molins, le procureur général de la Cour de cassation, c'est-à-dire le plus haut poste de magistrat au sein du parquet, requiert le renvoi de l'ancien Premier ministre, ainsi que celui de François Léotard, à l'époque ministre de la Défense, devant la Cour de justice de la République. C'est la seule instance habilitée à juger les ministres. Alors de quoi s'agit-il ? De soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle de 1995, l'affaire dite Karachi commence avec l'attentat dans la ville pakistanaise qui en 2002 va faire 15 morts dont 11 Français qui tous travaillaient à la construction de sous-marins vendus au Pakistan. Jean-Philippe Degnaud.
Les enquêteurs ont d'abord travaillé sur la piste d'une attaque terroriste avant d'explorer une autre hypothèse, des représailles contre la France, après la décision du président Chirac de suspendre le versement de commissions sur les contrats de vente d'armes avec le Pakistan. Des commissions et des rétro-commissions. Et ce sont elles qui auraient permis de financer la coûteuse campagne d'Edouard Balladur en 1995. C'est ainsi que l'équivalent d'1,5 million d'euros atterrit dans les caisses du candidat entre les deux tours. À l'époque, le Conseil constitutionnel avait pourtant validé les comptes de campagne. C'est d'ailleurs le principal axe de défense d'Édouard Balladur qui affirme que l'argent provenait des dons des militants et de la vente de pins et de t-shirts du Parti Républicain. Sans convaincre la justice donc, on voit mal comment ces dons auraient été stockés en billets neufs de 500 francs, ironise le procureur général de la Cour de cassation, et aurait miraculeusement permis de solder le déficit au moment opportun. Cette somme est nécessairement d'origine frauduleuse, conclut François Molins en demandant un procès. C'est maintenant à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'en décider.
Et c'est dans cette tentaculaire affaire que 6 autres personnes, dont l'intermédiaire sulfureux Ziad Takieddine, seront jugées en correctionnel aussi à partir du 7 octobre. Au tribunal de Bobigny, de la prison avec sursis, 3 mois requis à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et 5 de la France Insoumise pour avoir empêché la perquisition au siège du parti. En octobre 2018, le jugement sera prononcé le 9 décembre.
Ce sera aujourd'hui un samedi chargé en défilé et les autorités craignent un samedi perturbé.
D'où le dispositif sécuritaire musclé. À Paris, 7500 policiers et gendarmes, retour aussi des blindés de la gendarmerie et large périmètre interdit. Champs-Élysées, Trocadéro, surveillance aussi des bois de Boulogne et Vincennes où peuvent se regrouper des casseurs. Sécurité renforcée aussi dans plusieurs villes de province comme Toulouse ou Montpellier. Gilets jaunes, manifs pour le climat, défilés contre les retraites, menaces Black Bloc, auxquelles il faut ajouter les files de visiteurs attendus pour les journées du patrimoine qui du coup vont être quelque peu tronquées. Anne Chépeau.
À Paris, inutile de vous présenter ce week-end à l'Arc de Triomphe, il restera fermé. On se souvient que le monument avait été saccagé lors d'une manifestation en décembre dernier. Fermé également le palais de la Légion d'honneur, les ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture, la préfecture de police. En région, à Nantes, la préfecture de Loire-Atlantique n'ouvrira pas pour des raisons de sécurité, tout comme l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. À Paris, certains sites fermés ce samedi ouvriront toutefois demain. C'est le cas du Petit Palais, du Grand Palais ou encore de la Cour des Comptes. Pour éviter les mauvaises surprises, sachez enfin que plusieurs lieux de pouvoir ne sont accessibles cette année que sur réservation. Les ministères de l'Intérieur, des Armées, de l'Économie, de la Culture, l'Assemblée nationale et l'Élysée, dont les créneaux de visite se sont envolés en quelques heures. 20 000 chanceux pourront cependant, comme l'an dernier, découvrir le palais présidentiel.
Quant aux manifestants pour le climat qui se mobilisent tout le week-end au niveau mondial, eh bien, ils projettent aujourd'hui des actes de désobéissance civile, comme sur le modèle de Greenpeace, mouvement qu'ils dirigent en France. Jean-François Julliard estime en effet qu'il faut durcir l'action. Jean-François Julliard, au micro de Célia Kiré.
Ça veut dire qu'on est prêt à désobéir en masse et que de plus en plus de personnes sont prêtes à franchir ce cap-là de la légalité pour montrer, pour rappeler au gouvernement que son action climatique n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc ce qui est nouveau, c'est ça, c'est qu'en cette rentrée, on ne se contente pas de refaire ce qu'on avait fait, entre guillemets, il y a une année, on va essayer d'aller plus loin. Plus sur le modèle de Greenpeace et d'autres organisations qui prônent aussi et qui soutiennent la désobéissance civile, mais oui, parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il faut aller plus loin et que ce mode d'action, cet outil de l'action de non-violente de désobéissance est quelque chose de nécessaire et qui peut nous permettre justement de franchir cette étape, cette marche qui nous manque encore pour convaincre le gouvernement d'aller plus loin. En tout cas, on a l'intention de se faire entendre plus encore que l'an dernier, donc ça va passer par des rassemblements non autorisés, des blocages de lieux, des choses qui vont être dans ce domaine d'action.
Jean-François Julliard, le directeur général donc de Greenpeace France. Des bistrots dans les campagnes pour que les gens soient plus heureux.
C'est l'une des mesures assez surprenantes annoncées hier par le Premier ministre. 1000 nouveaux cafés qui pourraient s'installer dans les villages avec des licences 4 facilitées. Édouard Philippe a rassemblé plusieurs dizaines d'autres mesures, certaines déjà connues, le permis à 1 euro, convivialité donc, transport, c'est bien pour la ruralité. Mais certains n'ont pas attendu le gouvernement pour agir. Arvieux, 700 habitants, la Silicon Valley de l'Aveyron. Alain Gastal, vous êtes allé voir.
Les quatre jeunes diplômés qui voulaient créer leur start-up dans les années 2000 n'avaient trouvé que ce petit village perdu dans l'Aveyron pour les accueillir. Quelques années plus tard, la start-up a grandi et Vincent Benoît anime désormais une zone d'activité numérique.
Au rez-de-chaussée, vous avez Maison Fourmille, un studio de création à la fois graphique et bâtiment. Il y a les locomotivés, c'est un circuit court de produits locaux. Et après, le reste, c'est des coworkers. Et on a aussi des télétravailleurs.
La trentaine de salariés travaillent dans l'ancien couvent, racheté par la mairie. Le reste a suivi une salle de spectacle avec des fauteuils récupérés d'un cinéma en faillite, une médiathèque, tout pour plaire à Nicolas, développeur web, qui vient de signer son contrat.
L'école à proximité, en étant au village, la vie de village, le dynamisme ambiant qu'on ressent en étant dans la boîte, sans pollution, sans bazar sonore, sans tout ça, et pas mal de choses à faire. Faire la pêche, on va aller faire des randonnées avec les enfants parce qu'elles adorent ça, donc ça tombe très bien.
Au milieu des commerces et des trois bars restaurants, la mayonnaise semble prendre entre anciens et néo-ruraux. Pour le maire Gilles Bunol, être isolé, en altitude et loin de tout, était finalement plus une chance qu'un handicap.
C'est pas le village dortoir, c'est le village où on vient pour dormir et après on va au travail. Voilà. Arvieux, c'est autre chose, c'est une vie qu'on partage avec les autres, c'est des animations culturelles. Le lien social, l'associatif, tout ça.
Et la commune désormais regagne des habitants. Arvieux, Alain Gastal, France Inter.
Et on en revient, Bernadette, à l'événement sportif du jour.
Les Bleus, à moins de 2 heures de leur premier match du mondial de rugby à Tokyo face à l'Argentine, match de tous les dangers déjà. Car même si les Pumas ont les griffes émoussées, ils arrivent sur une série de défaites, les Bleus ne sont pas bien plus vaillants. Et dans leur poule, une première défaite ne pardonnerait pas. La porte des quarts de finale leur serait déjà presque fermée. Ce sera donc à partir de 9h15 heure française, des matchs le matin, ce sera le cas pendant toute la compétition, mais ce n'est pas un souci pour ce supporter Alexandre Ludelli, il s'est déjà organisé.
J'ai pris ma matinée pour le France-États-Unis, qu'on soit d'accord. Voilà, après les matchs à 5h du matin, je ne vais peut-être pas les regarder. Mais en tout cas, au maximum, regarder les matchs. Bah, on l'a fait pour 2011, donc on avait tous les matchs à 7h du matin. Donc le saucisson et le cidre et la bière à 7h du matin pour encourager les Bleus. Toujours. On finit à la troisième mi-temps à 16h. Il faut qu'on arrive absolument à battre l'Argentine. L'Angleterre, ça va être très compliqué. Mais la force des Bleus, c'est de surprendre toujours en Coupe du Monde. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais j'aimerais bien au moins la demi-finale.
Donc France-Argentine, 9h15, et ensuite Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, à partir de 11h45. On ne va pas les rater.
On ne ratera pas ça, effectivement. Et Journal des Sports, ce matin, Journal des Sports complet, ce sera à 8h10. C'était le journal de Bernadette Chamonaz. Le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous ? comment ça va ?
Jean-Michel Golinski, on va ressortir le parapluie ce week-end.
Ah, tout à fait Eric, avec aujourd'hui des ondées possibles sous un ciel variable sur la façade ouest, entre les Pyrénées, la Bretagne et le Cotentin, et surtout avec la mise en place d'un épisode méditerranéen sur le Languedoc et le Roussillon, attisé par un fort vent d'autan, donnant de très fortes précipitations orageuses entre le littoral et les Cévennes, et plus particulièrement sur l'Hérault, placé en vigilance orange, pluie, inondation et orage. La nuit prochaine, ces fortes pluies vont progressivement gagner l'est du Rhône. Sur le reste du pays, c'est un samedi estival qui s'annonce, avec un temps sec et ensoleillé, des températures de 28 à 30 degrés au nord comme au sud, un peu moins sous les fortes pluies du golfe du Lion, il fera 24 à Perpignan, à Montpellier et à Nîmes.